Nous sommes mercredi 30 avril 2024, 25.
Oh la vache!
Ah,
On recommence, on
cinq
recommence.
secondes déjà baisé quoi.
Dojobar du 30 avril, deuxième prise.
Je le garderai au montage, j'en ai rien à foutre. Nous sommes le mercredi 30 avril 2025 et vous écoutez le Dojobar.
Bah!
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Et bonsoir Mecton.
Et salut chien.
Voilà, une émission placée sous le signe du sérieux, hein, et pas du tout de l'improvisation et de la rigolade. Hein, je tiens quand même.
Jamais.
Ouais, c'est une émission tout chousse aujourd'hui.
Hein. C'est pas vrai, ils partent déjà. C'est une émission qui va aller comme sur des roulettes, hein, j'ai envie de dire.
Ouh.
Alors, nous allons parler donc de Mario Kart World Direct, on va en faire un résumé assez condensé, je pense. C'est vrai qu'on avait eu déjà beaucoup d'informations, ça n'a fait que confirmer un certain nombre de choses. Et nous allons parler derrière de sport extrême. Il y a eu une... Alors, j'ai intitulé le sujet « Essor et déclin des jeux de sport extrême ». Parce que vous allez voir que ça a été une mode. C'est passé de mode, et il s'est passé tout un tas de trucs entre deux. Vous avez forcément suivi ça à un moment, vous avez forcément joué à un jeu de ce type-là, si vous étiez joueur entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Mais vous avez peut-être pas suivi toutes les péripéties qui se sont passées entre deux, vous allez voir, il y a des choses intéressantes à en dire. Mais on va commencer tout de suite par notre tour de table de l'actualité, et pour une fois, Antix ne va pas nous parler des choses déprimantes qui se passent chez Ubisoft avec des zizi.
Oula, attends.
Démerde-toi.
Voilà, comment je m'en sors, il me faut une pirouette. Hop, esquive parfaite, je parle de Zelda. Eh bien, figurez-vous que très récemment, le premier speedrun de Zelda Breath of the Wild sur Wii U a eu lieu. Ça a été fait en moins de 20 minutes. Vous avez pas vu passer l'info, vous demandez, mais... Enfin, la Switch 2, pardon. J'ai dit Wii U, hein.
On est quel jour déjà? On est quel jour?
Les voitures, ils se disent.
Du coup, donc le premier speedrun de Zelda Breath of the Wild Switch 2 édition a été fait. Et donc vous vous dites, mais attends, la Switch 2 n'est pas sortie, Antix. Qu'est-ce que tu nous racontes? C'est qui ce mec qui l'a récupéré du camion? Je vous rassure, c'est très simple, ça a été fait de manière tout à fait légale durant le Nintendo Switch 2 Experience de Tokyo. Donc on a un japonais, Ika Posé, qui est connu notamment pour être speedrunner de Breath of the Wild sur Switch, ou Wii U, je sais pas quelle version, mais probablement Switch. Du coup, lui, il a eu le droit à sa petite invitation pour y aller. Il est arrivé devant le jeu et il s'est dit « Attends, mais il y a une durée limitée, là, sur la démo. Est-ce que je tenterais pas d'aller jusqu'à Ganon avant la fin ?» Ce connard, il y est arrivé.
Mais c'est vraiment...
et alors, pardon...
D'où ça sort, quoi? C'est vraiment...
Et je vous ai dit moins de 20 minutes. Pardon, c'est moins de 10 minutes, puisque la démo s'est arrêtée au bout de 10 minutes.
Oh, putain. Ah, le mec, il nous a fait un 1-2 dans le tour de table de l'actu.
C'est aussi dire à quel point le speedrun de jeu a été optimisé de ouf en 8 ans. Hein.
Mais là, en plus, en 60 FPS, ça a dépoté, quoi.
C'est ça. Et du coup, il a... Donc, c'est Nintendo Insider qui avait remonté la news. En tout cas, c'est par ça qu'on l'a eu. Petite dédicace à Meduse, d'ailleurs, hein, parce que c'est lui qui nous l'a filé. Et du coup, il a même fait une vidéo pour montrer son parcours et comment il l'avait fait.
Oh, putain. C'est quand même le mec, il a des couilles en adamantium, quoi. T'as été tiré au sort par Nintendo pour le Switch 2 Experience de Tokyo. T'es speedrunner, tu te dis, bon, on y va, c'est parti. C'est vraiment. Quel enfer, quoi.
T'imagines la gueule des hosts quand le mec, il a fini le truc, il s'est tourné vers eux, genre, bah voilà.
Bisous.
Allez, salut.
Je l'achèterai pas, je l'ai fini. Hop. Bref, bon, en tout cas, c'est une nouvelle amusante. Monsieur Mecton voulait nous parler de la fameuse mise à jour 20.0 qu'on a touté / bluescayé ce matin.
Yes, bah, c'est histoire de confirmer. Donc c'est dispo, ça rajoute le système de cartes virtuelles qui avait été présenté au direct précédent, celui qui présentait la Switch 2. Vous suivez? Et le game share, donc c'est très rigolo parce que pour l'instant on peut le lancer, donc ça explique comment ça va marcher, donc ça confirme que la Switch 2 servira de hotspot qui pourra streamer le jeu vers d'autres Switch moyennant jeu compatible. Et le truc très 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 intéressant, fait, si jamais vous vendez votre Switch 1 pour vous payer la 2, bah, vous pouvez sauvegarder votre compte. En fait, c'est faire un transfert de sauvegarde, mais en passant temporairement par le serveur. Pas un serveur nuagique.
C'est ça. Et ce qui est une option intéressante, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir les deux machines. On peut vraiment. T'as envie de larguer ta Switch 1 maintenant, tu peux le faire.
Tu la sauvegardes. Voilà. Et t'importeras le truc plus tard.
C'est ça. Tu peux aller dans ton. Il y a quelques magasins en France, notamment Micromania, mais pas que, qui font des offres de reprise en mode. Vous nous amenez une Switch OLED en état correct. On vous file un bon d'achat de. Alors, je sais plus combien c'est. 100, 150, 200 balles. J'en sais rien.
Vu que c'est voilà. Micromania, ça doit être 5 euros.
5 euros et un Mars. Et donc, du coup, voilà, c'est quand même effectivement, je trouve, une très bonne option. Ça disparaîtra peut-être à un moment. Mais en tout cas, oui, ça évite tout un tas de déconvenus. Il y a aussi les cartes de jeux virtuels, je sais pas si t'en as parlé, je crois pas.
Si, bah, j'ai mis en place après, j'ai pas encore utilisé
T'as
le truc.
T'as pas testé ?
Non, je sais, j'ai juste vu, c'est configurable, donc c'est ce système de ma carte virtuelle, je lui donne accès sur telle console ou telle console. Le truc rigolo dont il me semble qu'ils avaient pas parlé, c'est qu'on peut distribuer ses jeux entre ces consoles via une interface web depuis un PC.
Et visiblement depuis l'application de Nintendo de son téléphone aussi.
Oh, ouais, ça j'ai pas regardé.
Parce que c'est Méduse nous a envoyé quelques captures d'écran qui allaient dans ce sens. Donc,
ce qui est pas mal, hein, parce que mine de rien, il file pas mal de services sur mobile maintenant de Nintendo. Tout à fait.
Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que alors c'est peut-être passé un petit peu en dessous de vos radars, mais j'ai vu qu'il y avait aussi, quand tu possèdes plusieurs Switch, il y a un des trucs qui est un peu galère, c'est que si tu as un jeu même en cartouche, les DLC que tu as éventuellement acheté pour ce jeu ne sont pas toujours préchargés sur les autres Switch. Et là, apparemment, on peut le faire aussi. Même ouais. Sans avoir jamais mis le jeu, la cartouche de jeu dans la Switch en question.
Bah, tu l'es présenté avec une icône horizontale.
Ouais, les DLC, c'est une icône à part. Je suis allé jeter un oeil. Ça m'a permis de voir ce que j'avais acheté en 8 ans de Switch.
C'est DLC ou simple mise à jour, d'ailleurs.
Ah, ça c'est intéressant. Bref, et je vais terminer toujours sur la Switch 2. On a pu voir. Alors, on a vu pas mal de choses circuler sur les Game Key Cards, donc vous savez, ces cartes qui ne contiennent pas le jeu, mais qui sont juste une clé physique de déverrouillage du jeu, qu'on peut du coup revendre, hein, la licence est associée à la clé physique, elle n'est pas associée au compte utilisateur. Donc la différence que ça fait, c'est que tu achètes un jeu sur l'eShop, il est lié à ton compte utilisateur, tu ne peux pas le revendre. Tu achètes une Game Key Card, la licence est liée à la Game Key Card, donc tu peux éventuellement la revendre. Ce qu'on a vu surtout, et c'est ça qui est un peu triste, c'est qu'on a le retour des codes in the box. Ce qui fait quand même un peu chier. Bah, Tony Hawk Pro Skater 3 plus 4 sera disponible que en code in the box. Split Fiction de Electronic Arts ne sera disponible que en code in the box. Alors le jeu fait 71Go, donc je m'attendais pas sur Switch 2, donc je ne m'attendais pas à ce qu'il soit disponible autrement qu'en Game Key Card. Mais code in the box, c'est vraiment pute, quoi. Là, les mecs font même pas l'effort. Et on a un autre phénomène un peu plus intéressant, c'est que finalement, quand tu regardes quasiment tous les gros éditeurs third party, que ce soit Activision, que ce soit Electronic Arts, que ce soit Sega, c'est des Game Key Cards systématiquement, même quand le jeu a une taille ridicule. Typiquement, Puyo Puyo Tetris 2S, il fait 3,9Go, c'est une Game Key Card.
Ça, on en avait parlé, c'est parce que sinon ça leur coûte encore plus cher. Ils veulent juste que nous fait de la thune.
Je suis sûr qu'une SD Express de 4Go, ça coûte pas si cher que ça. Autant Cyberpunk 2077 qui sort en vrai physique sur une cartouche de 64Go, je pense que ça doit douiller, et que l'éditeur va faire une marge confortable, parce que je pense qu'il est déjà rentabilisé, Cyberpunk 2077, mais bon. Voilà, il sort quand même à un prix normal, mais de l'autre côté, t'as effectivement des éditeurs qui font pas du tout l'effort, quoi. Yakuza 0, c'est 23Go, donc ça rentre très largement sur une cartouche, mais c'est une Game Key Card. Donc, moi je trouve qu'il y a un petit peu du foutage de gueule, quoi.
Bah, c'est en fait que les jeux sur cartouche, ça va être que Nintendo, hein, je pense quasiment.
J'ai l'impression que ça va être Nintendo et quelques éditeurs.
Quelques jeux partenaires.
Potentiellement.
Où ils ont eu l'exclu, du coup, ils font bon, ça soit sur nos marges.
C'est ça.
Qui c'est qui me disait qu'on commence à avoir des phénomènes de scalp sur les SD Express, avec ces conneries?
Ça commence, oui, ça commence, parce qu'en fait, les SD Express coûtent quand même assez cher. La technologie est existante mais c'est encore très jeune en réalité. Dans le cycle de vie, la SD Card Express, en fait, ça existe depuis quelques mois, en gros, pour le grand public. Et il y a assez peu de téléphones et de périphériques qui le supportent actuellement. Donc je pense que là-dessus, Nintendo s'est peut-être un petit peu avancé, on verra comment ça se passe, mais c'est vrai que ça risque de coûter un peu cher. Alors après, je ne sais pas, à la fin de la vie de la Switch, combien coûtaient réellement les cartouches. Je sais qu'au tout début, les cartouches de 64Go et même de 32Go, je crois, n'étaient pas disponibles, ça coûtait trop cher. Maintenant, je sais que c'est disponible et que ça coûte plus si cher que ça, mais s'ils ont remis les prix d'origine, effectivement, je comprends qu'il y en ait certains qui aient pété un plomb.
Je précise pour Kerbix et puis peut-être d'autres qui nous écoutent, quand je disais phénomène de scalp, donc je parlais de scalper, c'est-à-dire les mecs qui achètent absolument tout et qui te le revendent deux fois le prix.
Voilà. Des gens qui font avancer le capitalisme dans le bon sens, apparemment.
Bon, ouais, surtout, le but, c'est de profiter du fait que t'es un phénomène de grosse demande sur un produit qui est pas forcément disponible facilement, genre la PS5 les trois premières années de sa sortie,
Comment avoir sais-tu qu'elle est sortie?
J'ai vu les pubs.
Ça veut rien dire.
Mais bref, ça pour dire, c'est profiter d'un phénomène de rareté pour avoir beaucoup de stock et essayer de revendre plus cher pour se faire une marge. On a eu ça sur les Amiibo, notamment quand ça a débuté.
Ouais, tout à fait. On a eu ça sur la Wii. C'était il y a 15 ans maintenant.
Les cartes Pokémon, c'était violent.
La carte Pokémon. La Wii, je pense, c'était moins un problème parce que déjà les sites de vente en ligne étaient quand même moins courants que maintenant. Les gens n'étaient pas encore autant sur l'achat en ligne.
C'est vrai que les achats en ligne étaient quand même plutôt marginaux, je pense.
Non, le Bon Coin, c'est genre une institution en France, quoi.
Tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Bref, eh bien, je vous propose sur ces bons mots de faire une première petite pause musicale. On va écouter donc une composition de Kenta Nagata. Alors, j'ai tenté, dans l'intégralité des jeux de sport extrême dont on va parler après le prochain sujet, j'ai tenté de trouver des musiques qui n'étaient pas, entre guillemets, sous licence. Alors, toutes les musiques sont sous licence, hein, mais des morceaux qu'on pouvait éventuellement diffuser sur Twitch parce que ça posait pas de problème. J'ai regardé les bandes originales des Tony Hawk Pro Skater, il n'y a pas un seul morceau qui ne sort pas.
Donc c'est pas des bandes originales, du coup.
C'est pas vraiment une bande originale, c'est plus une espèce de collection. C'est une belle pile à écouter.
C'est une split de Spotify.
C'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est ça, super c'est agréable truc à écouter.
C'est super, un truc très classique dans les jeux de sport un peu réalistes, c'est de mettre des musiques existantes. FIFA faisait... On doit encore faire ça, d'ailleurs.
On doit encore faire ça, je suppose. Alors, ils ont probablement un thème par année, c'est ce qu'ils ont fait pendant un long moment. Mais du coup, en cherchant un peu, on arrive à en retrouver, bah, vous savez, où chez Nintendo, où on s'est dit, on va quand même pas payer des musiques de groupes de rock qui sont connus, on va faire semblant de faire les nôtres. C'est exactement ça. Donc là, une composition de Kenta Nagata pour 1080 Snowboarding sur N64 qui s'appelle Vacant Lives, et vous allez voir, ça ressemble, ça a le goût de MTV, ça a la couleur de MTV, mais non, c'est du Nintendo. Voilà, on se retrouve dans un petit peu plus de 4 minutes, à tout de suite. Et nous voilà de retour. Et donc, Mario Kart World Direct. Alors, si c'était une petite remarque de Monsieur Antix qui était hors antenne au départ, c'est vrai que si on a suivi le Treehouse, on n'a pas appris grand-chose hein, dans ce Mario Kart World Direct, même si sur la présentation de la Switch 2, on avait déjà pas mal d'éléments, donc on va juste repréciser les trucs qui sont officiellement, on va dire, dévoilés par Nintendo, mais encore une fois, vous avez vu le Treehouse, je pense que vous avez à peu près tout vu. Donc, on va commencer par les modes de jeu. Alors, on a le retour des traditionnels modes pièces et modes bataille de ballon, et ça fait quand même plaisir.
Yes.
Il y a un mode balade qui permet de profiter de l'open world, donc se balader à l'intérieur du monde et aller de circuit en circuit.
Avec des petites missions dedans aussi, un peu à la Mario Kart DS.
Ça va beaucoup ressembler, je pense, à... Comment il s'appelle ? Ah, Burnout Paradise. Tu avais effectivement... Bah, t'avais une grande ville ouverte dans laquelle tu pouvais te balader, t'avais des petites missions. Alors, sauf que Burnout Paradise, il n'y avait pas vraiment de jeu de course, quoi. C'était un peu gênant.
Ouais, après, c'est... oui.
Bah, c'est plus t'allais de mission en mission. Alors, c'est cool parce que la ville est assez vivante et tout ça, mais effectivement, c'était pas... t'avais pas des vraies courses avec un début, une fin, des tours, etc.
Ah oui, non, c'était que des spéciales, oui.
C'est ça. Là, je pense qu'il y a, des vrais... Après, a priori, il y a des vrais circuits, il y a des vrais machins. On a un deuxième truc, c'est qu'il y a une, un mode course d'endurance. Alors, on a le, qui s'appelle le mode survie.
Le mode Battle Royale.
Alors,
bah,
techniquement...
C'est ça, hein.
Bah, c'est un peu ça.
Tu vois, F099, c'est le même concept.
C'est ça. L'idée, c'est donc une course à l'australienne. Alors, moi, j'ai toujours appelé ça une course à l'australienne. Est-ce que je suis le seul?
Non, pareil.
Ok. Ah, bah, toi, t'es déjà allé là-bas aussi, mec, toi. C'est facile. Oui.
Voilà. Alors, course à l'australienne, ça veut pas dire qu'on fait la course en marchant sur la tête.
Hein. Non, non, là-bas, on appelle ça qui... un mardi.
Non, ça, c'est, ça, c'est Mario Kart 8.
Bref, donc la course à l'australienne, l'idée, c'est que à chaque fois, on va éliminer les... Alors, le dernier ou les derniers. Alors, je suppose que ça dépend.
Là, ce sera, ce sera les 4 derniers.
Ah, donc sur 24 concurrents, c'est, puisque c'est le nombre de pilotes.
C'est une série de 6 courses. Et à la dernière course, on n'est plus que 4. Donc, peut-être que c'est pas 4, mais... en gros, je crois qu'il faut, faire... genre mieux que 16.
Meilleur que 20e place, meilleur que 16e place, meilleur que 12e
ouais,
place.
Gros, l'idée, c'est, voilà, c'est de terminer dans les premiers et t'as un nombre limite comme F099, du coup.
C'est ça qui éliminait. Alors, par contre, de mémoire, F099 éliminait 50 participants.
C'était par tranche de 10 par tour. De mémoire.
Ah oui, c'est ça, c'est par tranche de 10 par tour.
Ou 5 ou 10, mais bref. L'idée,
oui,
l'idée
c'est
la même,
ça,
en fait.
C'est ça, c'est une course élimination, donc effectivement, c'est F0 Open World 99. Non, F0, Kart 4, c'est compliqué. C'est très compliqué.
Mario Kart 0.
F0 SNES, c'était déjà une course à l'australienne.
Ah non, t'éliminais pas le dernier.
Si,
si, ah si, il fallait avoir une place minimum à chaque tour. Mais t'étais pas obligé de terminer premier.
Non.
Par contre, effectivement, si t'étais en dessous de la troisième place, t'étais éliminé au bout d'un moment. Effectivement, un petit délire comme ça. On nous a présenté aussi des nouvelles techniques. Alors, on avait le saut chargé, donc on avait déjà un saut dans Mario Kart 8 qui servait à, effectivement, classiquement esquiver les bananes, mais en fait, on s'en servait plus pour charger un turbo dès qu'on faisait un saut. Alors, dès qu'on avait un tremplin, la piste qui t'envoyait un peu en l'air, enfin voilà, tu pouvais faire un saut.
Une bosse,
un machin, un truc, donc tu pouvais faire un saut qui te permettait de bénéficier en plus d'un petit turbo en atterrissant, ce qui était quand même pas désagréable. Là, t'as un saut chargé, c'est-à-dire tu peux maintenir la touche pour sauter un peu plus haut, sauter éventuellement un peu plus loin, donc atteindre potentiellement des raccourcis que tu n'aurais pas été capable d'atteindre avec un simple saut. Et peut-être esquiver des plus gros objets, je sais pas si ça fonctionnera. Genre un saut simple te fait sauter une banane, un saut double te fait sauter une bombe, enfin j'en sais rien. Mais voilà.
Et du coup, ça permettra aussi de rouler sur les murs.
Ah oui, oui c'est vrai, puisqu'il y a ce truc où on peut grinder façon Tony Hawk hein, sur les rails et les murs.
Les inspirations au sport extrême de Mario Kart.
Ah, complètement. Alors apparemment, on peut aussi sauter sur le porte-avions Charles de Gaulle, nous dit-on. Je comprends pas le concept, mais c'est pas grave.
Et ça permettra à Macron d'appeler directement le Premier ministre japonais parce qu'il y a un incident diplomatique.
Exactement.
Comment ça, un plombier italien
Et dernière petite technique qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent, c'était le mode replay. Mais apparemment, c'est seulement pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'es loupé, tu peux revenir en arrière, mais les autres, ils continuent d'avancer.
Voilà.
Alors ça, je trouve ça assez extraordinaire. Je sais pas comment ça va être géré.
Pas comme dans Zelda.
Est-ce qu'ils ont... Ça, j'en sais rien, mais... Est-ce qu'ils ont recyclé, le rappel de Breath of the Wild ? Non, c'est le rappel de Tears of the Kingdom.
De OTK.
Est-ce qu'ils ont repiqué ce truc-là ?
Ouais, mais alors moi j'ai un peu du mal. Enfin, j'avoue que le fait que. Alors déjà ça marche qu'en solo, ça c'est important. Et
Ah, ça marche pas en multi
non.
Ah, dommage.
Et seulement pour toi, c'est que quand il y a les ordi. Bah, en multi, je pense que ce sera un peu compliqué à gérer en ligne notamment.
Bah, je sais pas, au final tu vas juste en arrière quoi.
Ouais, je pense que si jamais tu t'es raté sur un virage pour prendre un raccourci, tu peux le refaire, mais. J'avoue que là, je...
Mais après, le truc, c'est que c'est... En fait, ce que je trouve sympa là-dedans, c'est que c'est un peu risque-récompense, quoi. C'est-à-dire que finalement, faire un... Enfin, utiliser le replay, ça te fait reculer, donc effectivement techniquement tu perds du temps, tu perds des places, mais si tu peux prendre ton raccourci correctement, le deuxième coup, bah t'as une grosse récompense. Donc t'as de nouveau un petit mécanisme où certes tu prends un risque en reculant parce que tu c'est pas juste comme un replay dans les derniers Need for Speed ou dans les derniers Burnout où ça vraiment ça rembobine les 3-4 dernières secondes de la course pour tout le monde. Bah, c'est vraiment juste toi.
Il y a une bonne réflexion de Kerbix. Pendant que t'es en train de rembobiner, t'es genre un fantôme ou c'est un truc à la Ténet où les autres ils peuvent te cartonner s'ils te croisent?
Je crois que t'es invincible. Bah, j'avoue, c'est peut-être
pour ça qu'il n'y a pas dans le multi d'ailleurs, hein, parce que c'est peut-être compliqué à gérer cette histoire-là.
Ouais, mais moi je sens que ça va être le genre de feature où tu te dis ça sert à rien et puis y a un mec qui va trouver une technique pétée et du coup ça va casser le jeu en deux sur les time trials.
Il y a moyen.
Ah, je le sens venir tellement.
Pour ceux qui connaissent les speedruns de Prince of Persia, les Sables du Temps, où la technique principale du speedrun, ça consiste à utiliser rappel, donc à rembobiner, mais en faisant n'importe quoi avec la manette, enfin n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, mais en faisant des mouvements un peu erratiques, et en fait, quand tu lâches le rappel, bah, le prince de Perse se retrouve projeté à l'autre bout du niveau, quoi. Donc je pense qu'il va y avoir des conneries de ce genre-là.
C'est le truc qui dit « fuck you
». C'est ça. Bref, on en a déjà parlé, il y a 24 pilotes en simultané.
Yes.
Ce qui fait quand même une grosse augmentation, on est passé de 8 à 12.
Ah, c'est l'inflation, ma bonne dame. Hein.
C'est ça, là on passe à 24 pilotes, ça veut dire qu'on va probablement avoir des pistes encore plus larges. Je me rappelle que c'était une des critiques de Mario Kart 8 à sa sortie, c'était de dire finalement, les pistes sont très 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 larges, il n'y a pas hyper de technique possible parce que il y a beaucoup de monde, enfin c'est un peu pénible. Je ne sais pas ce que ça va donner de ce point de vue-là, je pense que c'est quand même essentiellement une question d'équilibrage. J'ai l'impression que le mode en ligne, par contre, ça va être chaud les marrons.
Ouais, moi ma crainte là-dessus, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de lignes droites. C'est un truc notamment que me fait dire les. Alors, on n'a pas parlé sur les Grands Prix. En fait, la première course c'est 3 tours, et en fait les autres courses, tu fais la transition jusqu'à la course d'après, tu fais un tour de la course d'après. Et qu'en fait, t'as beaucoup de lignes droites mine de rien. Enfin, en tout cas, dans les celles montrées dans Treehouses.
Ouais, t'as beaucoup de descentes façon Mario Kart 7, c'est ça. Où t'avais les fameuses classiques circuits et puis t'avais les descentes. C'est-à-dire tu partais d'un point A et t'arrivais jusqu'en bas.
Spécial.
Il y en avait déjà dans le 7 ? Parce que 8.
Il y en avait déjà dans le 7.
Ah ouais.
C'est arrivé dans le 7 et dans le 8 tu en avais. Alors je crois pas une par tournoi, mais tu devais en avoir 3-4 sur tout le jeu de départ. Un truc de ce goût-là, et t'en avais des très bien, hein, d'ailleurs. Mais effectivement, ça change un petit peu la physionomie de la course.
Tiens, donc tu parles du jeu de départ, la petite inquiétude que j'évoquais tout à l'heure. Donc quand Mario Kart 8 est sorti, après ils ont rajouté plein de circuits d'anciens épisodes. Là, je vois pas trop comment ils peuvent faire ça sans dénaturer complètement le circuit d'origine. Quoi.
Bah, c'est à peu près les retours que j'ai vus, c'est que justement, ça a beaucoup changé.
Ah, c'est plus des. Ce que j'avais compris, moi, c'est que c'était plus des circuits inspirés des circuits d'origine. Pas forcément. Tu vas pas avoir la pleine Choco 3 de la Super NES retranscrite en 3D.
Mais c'était quoi. Déjà le cas dans Mario niveau... Kart 8. Hein, dans Mario Kart 8, oui, ils avaient fait un gros effort de refonte.
Oui,
ils avaient beaucoup moins fait avant d'ailleurs.
Non, puis tu gardes le tracé et puis ça passe quoi.
C'est ça. Même pas parce que quand tu regardes Enfin, tu gardes une partie du tracé, mais pas tout, quand tu regardes
la course fromage.
La course fromage, le tracé a plus grand chose à voir.
Hein. Ah, c'est effectivement.
Bah, il a fondu, et puis c'est pas ça.
En même temps, les courses GBA, fallait vraiment leur mettre un bon coup de modif.
Bah, les courses Super NES sont peut-être un peu moins vieillies, elles sont pas très très 3D, en fait, c'est surtout ça, je pense, qui devait poser problème. Enfin, je suppose. Bref, on a le déblocage de plein de costumes. Donc apparemment, il faut passer dans les pizzerias Yoshi.
Ça sera sélectionnable directement au menu de choix du personnage. Hein.
C'est ça, et on peut donc manger une pizza spéciale pour débloquer des trucs.
D'ailleurs, d'ailleurs la vache pourra manger des burgers avec des steaks de bœuf. Voilà, voilà.
Ah, oh non, ça y est, il a tout gâché la meumeu. Putain, on avait dit pas la meumeu, quoi.
Non mais c'est des steaks végés.
Possible. Ceci est les cannibales.
C'est ce qu'on dira, ouais. C'est ce qu'on se dira.
Mais d'ailleurs, on en a pas parlé, mais avec 24 pilotes simultanés, ça veut dire que là, ils ont un peu été raclés les fonds de tiroir en termes de perso, donc on est effectivement la vache de Mario Kart Wii. Ce qui fait quand même plaisir.
Il y a un Goomba.
Il y a un... Ah, il y a un Goomba.
Genre, tu te poses la question, comment il tourne, hein?
Bah, comment il tourne le volant,
ouais. Bon, il atteint les pédales, déjà.
Qu'en fait, ses dents.
Avec ses dents.
Je serais curieux de voir l'animation. S'il prend le volant avec ses dents, franchement, c'est énorme.
Ce qui est marrant, c'est que il y a deux Goombas, un pour les pédales, un pour le volant.
Ah oui, ça aurait été énorme, genre façon. Mais en fait, moi, je suis très très choqué qu'il n'y ait pas le duo Duck Hunt. Hein. Genre, maintenant qu'on y est.
Mais en vrai, la vache, j'ai découvert récemment qu'en fait, c'est un personnage qui est assez populaire auprès d'une petite tranche du fandom Mario.
Ah putain,
genre, ils aiment bien ça trop. J'étais là, genre, pardon.
Alors, ne tapez surtout pas Moumou règle 34 sur Google Images. Hein. Voilà. Ne faites pas ça.
Voilà, Peggy 18.
Ne le voilà, faites pas avec aucun perso, hein. D'une façon générale.
Faites pas ça avec Waluigi, c'est mon petit conseil perso.
Ni avec Eric Zemmour.
Oh non, non, le mec gâche tout. Il respecte rien, putain.
Attends, lui aussi, il est dans Mario Kart?
Bah, c'est Waluigi.
j'ai pas suivi.
C'est vraiment, ils ont acheté les fonds de tiroir. Hein. Ils sont allés prendre la petite merde au fond du tiroir.
Ne rigolez pas, mais il y a un mode qui permet d'avoir ta tronche avec la caméra de la Switch 2. Il y a un mode qui permet d'avoir, au lieu d'avoir ton nom au-dessus du kart, tu vas avoir ta tronche. Rien ne t'empêche de mettre une photo de Pascal Pro. Hein.
Mais c'est déjà prévu.
Mais d'ailleurs, ça, c'est pas un truc qu'il y avait dans le jeu d'arcade Mario Kart?
Si, le jeu d'arcade. Mario Kart GP, ouais, tu as une caméra qui te... Alors, elle te filme pas en permanence, elle te prend juste en photo quand tu démarres ta partie. Ce qui est assez rigolo, d'ailleurs. Mais voilà, donc du coup, si vous voulez faire vos... Enfin, il y a moyen de faire des trucs, hein. Je pense que là...
Ça rappellera les débuts de la Wii, quand on faisait du tennis contre Hitler, hein, ou des trucs comme ça.
Ah, putain. C'est un contre Hitler. Ah, et celui qui n'a jamais créé Hitler me jette la première pierre, hein, je veux dire. Je suis désolé de vous le dire, hein, mais tout le monde l'a fait. N'est pas faire chier. Hein. Comme tout le monde a fait aussi le bonhomme avec la tête à l'envers, dès qu'on a compris comment le faire. Bref, on a aussi, alors de mémoire, 4 nouveaux objets, en tout cas 4 qui ont été présentés, j'espère que j'en ai pas loupé un. Hein. On a la fleur de glace, qui permet d'aller geler quelqu'un, donc finalement c'est une arme incapacitante.
Ça met un peu à froid, mais on sait bien.
Ils sont déchaînés.
Ouais, reste cool.
Il y a la carapace à pièces. Alors ça, c'est un truc rigolo. Donc c'est une carapace qui... Alors je sais pas si elle a le même effet que la carapace rouge, mais en gros, c'est une carapace que tu lances et elle va lâcher une série de pièces et en même temps, elle peut casser la gueule à un mec. Donc c'est peut-être plus utile que la juste pièce qui existait dans Mario Kart 8. Oui. Oui, elle existait, la pièce. Alors, tu ramassais un bonus, c'était juste une pièce quand t'étais dans les premiers, généralement. T'avais ça, t'avais banane, carapace verte, pièce. Là, la carapace pièce, ça va être probablement un objet de milieu de pack qui va permettre de comment dire...
De lancer une OPA sur les concurrents devant toi.
C'est le capitalisme encore. La plume acrobate, alors ça c'est pareil, alors j'ai l'impression que ça ressemble à un saut chargé instantané, mais peut-être que ça fait un peu plus que ça. J'ai l'impression que ça fait un très gros saut qui te permet d'aller vraiment couvrir d'assez grandes distances.
En fait, c'est la plume de la Super Nintendo.
Alors, la plume de la Super Nintendo, elle permettait de faire juste un petit saut pour esquiver un truc ou prendre un raccourci. Mais ça faisait quand même un saut assez, assez large. Donc, bon, je sais pas si c'est mieux ou moins bien qu'un saut chargé. Si c'est juste un saut chargé instantané, un saut chargé instantané, c'est un peu dommage. Si c'est un vrai grand saut, c'est pas mal. La différence m'avait pas l'air aussi évidente que ça. Et le dernier objet que moi je trouve vraiment à pouffer de rire, c'est la magie de Kamek.
Ouais.
Qui permet d'aller transformer tes adversaires en des trucs très improbables.
Ouais.
Mais très 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 improbables.
Alors le truc que je trouve très drôle, c'est que t'as une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle Terminal Montage, qui est un gars qui fait des vidéos animées... beaucoup de jeux Nintendo, mais avec un rythme très frénétique, genre des trucs qui explosent sans raison, notamment. Il a fait une vidéo sur Mario Kart il y a vraiment mais quelques jours avant le Switch 2 direct, et dans la vidéo, t'as Kamek qui, justement, fout la merde sur le circuit à la demande de Bowser. Et du coup, j'ai vu débarquer...
Le mec a eu l'ultra instinct,
c'est pas possible. Comment?
Putain, oui, le mec est bon. Bref, je pense que ça, c'est un truc. J'ai l'impression que c'est handicapant pour tes adversaires. C'est genre tu deviens plus petit, machin. Mais j'ai surtout l'impression que ça va être un beau bordel. Que ça va être surtout très très drôle de voir toutes les transformations à la con qui vont être proposés.
Ça va être le chaos, quoi.
Voilà. Enfin, c'est un peu l'objectif, c'est pour ça qu'on joue à Mario Kart, on n'y joue pas pour se faire chier. Enfin, normalement. On est pas censé y jouer pour se faire chier.
De toute façon, le chaos, finalement, c'est un petit peu le but ultime de la vie.
C'est ça. Et c'est d'où les émeraudes du chaos, attendez.
Non,
c'est parti en couille. Bref, donc c'est à peu près tout, je sais pas s'il y avait d'autres choses. Je crois que, Mecton, tu voulais rajouter un truc, quelque chose
c'est fait. C'était sur les circuits rétro, où j'avais une petite crainte qu'ils soient très dénaturés.
Tout à fait. On va s'écouter de nouveau un petit morceau de la bande originale de Wave Race Blues sur GameCube qui s'appelle Ocean City Harbor. Ça dure à peu près 4 minutes. C'est composé par Lawrence Schwedler et James Philipsen. Pareil, hein, toujours le même truc, trouver des musiques qui ne sont pas de groupes connus ou qui n'ont pas été empruntées derrière dans des jeux de sport extrême, c'est très compliqué. Il n'y a que Nintendo qui finalement s'est dit « Moi, je paye pas la licence à Sony Music, il faut quand même arrêter de déconner. » Donc ils les ont généralement composés eux-mêmes, mais c'est pas le cas de tous. Hein, dans 1080 Avalanche, donc la version GameCube, la suite de 1080 Snowboarding, c'est pareil, ils ont la bande originale avec plein de groupes divers et variés. Donc voilà, Wave Race, c'est peut-être le dernier représentant de ce truc-là. Bref, 4 minutes, on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et donc pour cette dernière partie, on va parler des jeux de sport extrême. Donc sport extrême, on a essayé de regrouper le plus possible de trucs. Mais c'est généralement... Alors ça tourne beaucoup skateboard, snowboard. Hein.
Oui c'est ça, si vous avez une planche avec ou sans roulette, généralement. de préférence dans des environnements pas très plats, avec parfois de la neige et de l'eau.
C'est ça. Alors, on a aussi de la planche à voile, on a aussi du BMX, on a aussi du jet ski. Mais voilà, c'est globalement, on va dire, tout ce qui n'est pas du sport, j'allais dire, plus traditionnel, même si le terme peut se discuter. Voilà, et l'idée, c'était de retracer un petit peu comment ça a démarré, puis comment c'est devenu des jeux... Enfin, c'est devenu une espèce de mode, et c'est devenu des jeux un peu incontournables, hein, finalement. C'est-à-dire qu'on en a tous eu. Je pense notamment dans les années 2000, on a tous eu soit un SSX, soit un Tony Hawk Pro Skater, soit un...
Bizarrement, un style de jeu qui est beaucoup apparu avec la 3D.
Oui, alors il n'y en a pas eu que en 3D.
Bien sûr.
Mais effectivement, c'est apparu, ça a connu une espèce d'explosion à un moment avec la 3D, alors ça a été le...
C'est comme le succès des jeux de foot. Hein.
Ah, des jeux de foot, il y en avait avant. Il y en avait en 2D qui marchait bien, hein, en termes de vente. FIFA 96, qui est encore en 2D... est un jeu qui a marché extrêmement bien pour Electronic Arts.
Pour moi, c'est vraiment un jeu de foot, c'est vraiment un truc qui a commencé à marcher quand c'est devenu en 3D. Hein.
Alors, ça a commencé à peut-être rentrer un peu plus grand public.
Être top 1 des ventes tous les ans.
C'est ça. Mais tu regardes un jeu comme ISS Deluxe, par exemple, sur Super Nintendo, c'est un jeu de foot qui s'est vendu par camion entier, alors que pourtant, il coûtait une blinde. Hein. C'est vraiment... Faut pas négliger ce genre de choses-là. Hein. C'est pas parce qu'on s'était en 2D qu'il n'y avait pas des gens qui étaient absolument passionnés de jeux de sport. Mais voilà, donc le jeu de sport extrême, basiquement, alors ça commence pas du tout avec la 3D, mais c'est vrai que c'est là où t'as une espèce d'explosion, mais on va voir, c'est plusieurs facteurs qui font que ça explose en réalité. Alors, il y a eu, à l'époque de la NES, quelques jeux de skateboard, de surf et de snowboard. Alors, vous connaissez peut-être Skate or Die sur NES, un des premiers jeux de skate, alors qui est absolument ridicule par rapport aux standards d'aujourd'hui, on va être très clair, hein. Il y a eu les California Games dans lesquels il y avait souvent des épreuves de surf, mais ça reste une épreuve parmi d'autres. Donc ça,
oui, ça se jouait généralement. Puis ça se jouait à la track and field, le truc.
C'est ça, ça se joue un peu à la track and field. Tu avais Every Shredding, que vous connaissez peut-être pas, qui est un jeu de snowboard sur NES, qui est absolument ridicule, c'est en vue de côté et tout, c'est vraiment pas ouf. Ah oui, sur NES, monsieur. Et oui. Pareil, il y a eu quelques tentatives à l'ère 16 bits, mais généralement c'était plus lié à des événements genre, je sais plus, il y a eu des Jeux Olympiques d'hiver dans lesquels il y avait une épreuve de snowboard, et du coup t'avais une épreuve de snowboard dans le jeu officiel des Jeux Olympiques d'hiver, donc c'était plutôt des choses comme ça. T'avais pas véritablement
de jeu dédié.
De jeu dédié, c'est ça. Et alors, effectivement, avec la 3D, avec donc la S64, la Saturn, la PS1, là tout d'un coup c'est l'explosion. Mais vraiment, l'explosion. On se retrouve avec, peut-être pas des dizaines, mais énormément de jeux de sport extrême qui sortent. Alors c'est notamment le cas sur PlayStation 1 au départ. C'est beaucoup, Sony a beaucoup axé toute la communication de la PS1 sur la contre-culture.
Oui, le côté aussi un peu cool, plus mature que Nintendo qui est pour les gamins. Et mine de rien... Et mine de rien, on est dans les années 90, je pense aussi une époque où tout ce qui était skate et ce genre de choses était très populaire auprès des ados.
C'est ça, t'avais patin à roulettes, skate, tout ça, ça commençait... C'est ce qui était une contre-culture 10 ans auparavant, je veux dire, fin des années 80, on va dire, et finalement passé un peu mainstream. T'as aussi toute cette culture qui, pareil, était plutôt une contre-culture dans les années 80, je pense au punk, je pense au ska, je pense à tous ces styles musicaux, je pense au hip-hop qui était quand même un truc... Encore une fois, peut-être encore un peu marginal dans les années 80, même si ça commençait à décoller, qui là, maintenant, est devenu carrément mainstream, et effectivement, c'est ce qu'écoutent les jeunes de... Oui, voilà, de contre-culture à truc de boomer. C'est un peu ça.
Bientôt défendu par Pascal Pro.
Je serais curieux de voir les playlists de Pascal Pro. Moi, je pense qu'il y a des trucs intéressants dedans. Bref, donc oui, ça passe dans les médias traditionnels. Enfin, c'est un truc qui est plus sur le devant de la scène. Et des groupes qui étaient très 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 marginaux se retrouvent propulsés finalement à faire des concerts géants. Enfin bon, il y a quand même tout un tas de choses qui se sont passées entre, on va dire, le milieu des années 90 et le début des années 2000.
En plus, c'est vraiment la période de la télé, la télé par câble, je pense.
Satellite en France,
par satellite, oui.
Parce qu'on n'est pas le câble, je crois, en France. Enfin, si, peut-être qu'on avait
le câble. Moi, j'ai eu le câble.
Wouah !
Avec une Numérique Câble.
Mon dieu, ça devait être une expérience de ouf. Hein.
En vrai, c'était bien.
Ça devait faire de la télévision d'assez bonne qualité.
Non, vraiment. Moi, je me souviens de batailles avec ça, plein de chaînes. Et je pense que c'est à l'époque où tu avais beaucoup de chaînes musicales, dont MTV, et qui avait un peu toute cette culture, justement, un peu jeune, hip-hop, streets. Aussi, c'est magnifique, truc de télé-réalité avec le doublage français par-dessus les voix anglaises que j'aime d'amour.
Ah, le cancer.
Ah, non, c'est bien. Et puis, t'avais Pink Fire Ride.
Oui, voilà. Mais tu vois, typiquement, ça rentre dans ce genre de truc un peu cool de la fin des années 90, en plus.
Oui, c'est ça. C'est vraiment... C'est la mode. Et en plus, du point de vue du jeu vidéo, comme tu commences à avoir de la 3D, certes balbutiante, mais de la 3D, c'est vachement plus simple d'aller représenter un skatepark en 3D. C'est très con, hein, mais un skatepark en 2D... Quand tu regardes Skate or Die, en fait, le halfpipe, bah, c'est vraiment... T'as juste un demi-cercle vu de côté, puis des merdes de toi, quoi. Donc c'est sûr que c'est quand même un petit peu limité par rapport à un vrai skatepark tel qu'on peut l'imaginer en 3D avec des obstacles et puis même des trucs où c'est, ça n'a pas forcément besoin d'être très très réaliste et où on peut se lâcher et faire un peu n'importe quoi.
Et aussi t'as un début de gestion de la physique, notamment pour la neige. Alors bon, oui. La physique PlayStation 64 c'est très limité, mais ça existe. Et mine de rien, pour ce genre de jeu, si tu veux, qui a plutôt une tendance à vouloir tendre vers le réalisme, alors pas tous hein, évidemment, mais à se vouloir réaliste, pas être réaliste, la nuance est importante, c'est bien aussi d'avoir un peu ce rendu qui fonctionne, quoi.
Oui, voilà, il n'y a pas seulement effectivement le rendu graphique, il y a effectivement le rendu physique quand tu joues un 1080 snowboarding sur N64. Quand t'es dans la poudreuse, tu sens que ça, c'est cotonneux, tu vois, que tu rames un peu. Quand t'es sur la glace, tu sens que tu tournes moins bien, que tu glisses un peu, t'as plus trop le contrôle de ton personnage, et effectivement, c'est le genre de choses qui sont plus difficiles à représenter en 2D. Et on a donc plein de jeux. Alors on va pas tous les citer parce qu'il y en a quand même énormément, mais sur N64 on pense à 1080 Snowboarding qui est même fait par Nintendo lui-même.
Ouais,
donc même Nintendo a succombé à la mode, quoi.
Je pense que c'est aussi une façon de montrer l'aspect technique de la machine, hein.
Ah, c'est sorti assez tard dans la vie de la machine, hein.
Oui, c'est vrai que je pense plus à Wave Race avec cet exemple, mais on dit que c'était pas un jeu de sport extrême le premier.
C'est compliqué le premier Wave Race, ça ressemble beaucoup plus à une démo technique.
C'est une démo technique, hein, on va pas se mentir.
C'est une démo technique, ça, voilà. Mais donc, t'as ces jeux. Alors, sur PlayStation, on avait le premier que j'ai relevé, moi, c'était ESPN Extreme Games.
Et en fait, c'est assez rigolo parce que ESPN, pareil, la chaîne américaine consacrée au sport, mais enfin, tu as, on va dire au sport de manière générale, mais tu as aussi beaucoup de sports un peu alternatifs. Et c'est eux qui ont lancé les X Games, donc les Extreme Games, qui étaient des épreuves qui consistaient exclusivement à faire du skateboard, de la longboard, de la planche à roulettes, du BMX. Enfin, ça avait vraiment que des sports à roulettes un peu pétés, quoi. Et donc c'est rigolo parce que c'est eux qui ont sorti un jeu de skate et qui finalement derrière donnera naissance un peu plus tard, alors pas par les mêmes équipes évidemment, mais ça a forcément inspiré un petit peu les gens qui ont fait Tony Hawk Pro Skater.
C'est un peu le jeu de sport extrême emblématique.
C'est la référence. Hein.
Bah, c'est celui qui est sorti il y a quelques années. Hein.
Putain, c'est marrant, pour moi ça aurait... j'aurais dit Cool Borders. Quoi.
Alors Cool Borders aussi, il fallait qu'on en parle, parce qu'effectivement Cool Borders, il y en a quand même eu 4 sur PlayStation. Sur PlayStation 1, et c'est vrai que Cool Borders, je sais pas à quel point ça a été un énorme succès, mais moi j'ai surtout l'impression que 1080 Snowboarding s'est sorti en réponse à Cool Borders. Alors peut-être que ça a été mis en développement en même temps, hein, je dis pas que ça a servi d'inspiration directe, mais j'ai l'impression que c'était un peu une réponse aussi à...
Bah fallait bien avoir son petit jeu de snow, quoi. Je pense que c'était un prérequis d'avoir son petit jeu de glisse.
Alors que côté skate, effectivement, il n'y a pas trop de problème, puisque Tony Hawk Pro Skater a été porté sur N64 quelques mois après la version PlayStation.
Oui, c'était un peu le jeu qui... Ça faisait partie vraiment des titres références de l'époque. Hein. Les gens se souviennent, à mon avis, de Tony Hawk plus pour le jeu que pour l'ensemble de sa carrière de skater.
C'est pas impossible, même si le mec a eu un certain nombre d'accomplissements. Hein. C'est pas un gland
ah,
en
oui,
la matière.
Si son nom est utilisé, c'est que... C'est pas un hasard, elle est modélisée dans le jeu aussi, hein, faut pas l'oublier.
Oui, tout à fait, et puis il était apparemment très partie prenante pour faire un jeu PS1. Le mec, ça le faisait marrer, effectivement... T'es skater, t'as dans la trentaine à cette époque-là, de toute façon tu joues à la PlayStation, quoi.
Oui, bah en fait ça colle à l'image, l'image très, très adulte, enfin très jeune adulte, adolescent de la PlayStation. Enfin, c'est pour
exactement.
Ça que c'est un titre problématique de l'époque, c'est que c'est celui qui est resté plus que Cool Borders, je pense.
Je pense aussi, mais parce que le jeu de snowboard, on va voir, ça a été, on va dire, peut-être un peu plus compliqué.
Je pense que c'est compliqué de se renouveler.
C'est peut-être un peu compliqué de se renouveler. Alors j'ai même appris qu'il y avait un jeu de snowboard sur Saturn. Qui avait été fait par Cave, donc les mecs qui d'habitude font des shoot 'em up à base
imagine,
de grosses boulettes.
Tu descends ta montagne et là t'as un rideau de boulettes à la place de l'avalanche.
Ce serait énorme en vrai.
Et en fait l'avalanche elle remonte.
Voilà, et donc effectivement je pense que c'est Tony Hawk qui a vraiment, j'allais dire, cristallisé la formule de base. Surtout le premier, alors c'est ça qu'il faut voir et qui est assez impressionnant, c'est que finalement le premier Tony Hawk Pro Skater est un jeu qui sort, j'allais dire, pas parfait, mais quasi parfait. C'est-à-dire que t'as quasiment tous les ingrédients, la sauce est bien montée, le truc est un quasi sans faute dès le tout premier.
Ouais, ils ont eu du mal à essayer de bouger de la formule d'ailleurs. On verra
tout à
après.
Fait. Bon, on le verra un peu après. Donc l'idée, c'est d'avoir une expérience qui est très 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 arcade. C'est-à-dire que bon, évidemment, vous allez faire des sauts un peu hallucinants et même si, alors Tony Hawk, ça consiste à faire des runs généralement de 2 minutes avec des objectifs. Donc par exemple, récupérer une cassette vidéo. Oui, on est dans les années 90, il y a des VHS. Récupérer les lettres du mot skate. Accomplir des objectifs sur le parcours sur lequel tu es, genre arroser telle personne, aller rider à tel endroit, faire telle figure au-dessus de tel obstacle, etc., etc. Donc t'as toujours des espèces de mini-objectifs, en plus d'essayer de casser le plus de points possible. L'idée d'Anthony Hawk étant que c'est des points cumulatifs, donc en fait quand t'arrives à faire une figure sans te casser la gueule, tu fais monter une jauge qui va faire monter ton multiplicateur de points exactement comme tu aurais dans, finalement j'ai envie de dire, n'importe quel jeu d'arcade. Hein.
Mais en fait, c'est une mécanique qu'on retrouve plus tard dans Bayonetta et Devil May Cry.
Oui, complètement, complètement.
Où plus t'enchaînes les figures différentes sans te faire sans te casser la gueule, plus tu marques 2 points.
Exactement.
Et vraiment, tu transposes ça à Bayonetta et tu remplaces juste se casser la gueule par se faire toucher.
Mais c'est exactement ça, c'est impressionnant à quel point... C'est inspiré de jeux d'arcade avant lui, hein. C'est vraiment... parce que la limite de 2 minutes par arène, ça fait vraiment très très jeu d'arcade, quoi. Tu mets une pièce, t'as 2 minutes pour faire le meilleur score possible et tu l'inscris sur le scoreboard et puis c'est tout, quoi.
Non, de toute façon, c'était encore l'époque où l'arcade, c'était encore un truc à la mode. Ça a été moins, mais...
Ça a été un peu moins, bah disons que c'était plus l'arcade à la maison.
Ouais, mais en fait, c'était le moment où voilà, l'arcade, c'était encore la façon de faire des jeux, et c'est la génération d'après, en fait, qu'on va sortir un peu de ça.
Voilà. T'as derrière des mécaniques finalement assez exigeantes. Alors tu nous racontais en off, mais j'espère que tu vas nous le raconter là, comment t'as apprivoisé Tony Hawk Pro Skater 3.
Très, très mal. Alors j'ai fait les tutos, et les tutos te disent beaucoup de choses, t'expliquent beaucoup de choses, et en même temps t'as l'impression de rien comprendre à la fin. Mais voilà, la comparaison que je faisais, c'était... j'ai la même réflexion sur le jeu de combat. C'est qu'en fait, ça reste des jeux qui essaient quand même d'imiter la difficulté que tu vas avoir dans la vie réelle à réaliser ce que tu voudrais faire en jeu vidéo. Donc dans notre cas, faire des figures de skate. Parce que vous avez déjà essayé de monter sur un skate, mais déjà tenir debout, c'est pas mal. Quand on n'est pas habitué. Et du coup, il y a un côté un peu technique qui fait que tu dois te tromper, tu dois faire des erreurs avant de réussir à bien enchaîner tes tricks et faire des bons scores. Il y a vraiment une espèce de... Le jeu a une prise en main facile, mais attends-toi que si tu veux faire des gros scores, que tu t'investisses.
Bah, du coup, ça ressemble vraiment à un jeu d'arcade, quoi. Facile à comprendre, difficile à maîtriser. On est vraiment toujours dans cet état d'esprit-là.
Et en fait, au lieu de devoir apprendre à faire la technique avec ton skate, ton but, ça va surtout d'apprendre de bien les placer. Tu fais une erreur, tu te casses la gueule, quoi.
C'est ça. Alors, sachant qu'on peut se casser la gueule pour... Enfin, tu te réceptionnes pas correctement sur tes roues, t'es pénalisé, tu te casses la gueule, donc ton combo s'arrête, donc t'es obligé de reprendre, donc tu perds du temps, donc c'est plus compliqué.
Voilà, il y a un caniche qui t'aboie dessus, tu tombes aussi.
Voilà, tu peux aussi perdre l'équilibre, parce qu'en fait, quand tu grindes un spot, le vocabulaire est compliqué. Basiquement, quand tu mets ton skate en équilibre sur une rampe, en gros, c'est à peu près ça le truc. Tu peux garder cet équilibre, enfin, c'est facile de garder cet équilibre au départ, et en fait, plus ça dure, plus l'équilibre est compliqué à garder. Et donc là, quand tu te casses la gueule, bah, effectivement, ça reset ton combo. Donc si t'arrives à le garder longtemps, bah, c'est tout bénef. Tu engendres vraiment beaucoup de points.
Évidemment, c'est plus c'est long, plus c'est dur de maintenir l'équilibre.
C'est ça. Et donc du coup, à un moment, bah, t'as pratiquement intérêt à ressauter, refaire une autre figure, réatterrir autrement, reprendre ton truc. Enfin bref, il faut arriver à trouver une espèce de flow pour pour arriver à avancer, à marquer des points, quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, là, ce qu'on dit, c'est valable pour Tony Hawk, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de jeux de sport de glisse et de sport extrême. Ce côté essayer de faire des figures ou d'enchaîner des figures ou tenir sur un grind pour marquer des points ou obtenir du boost.
Tout à fait. Alors la petite différence avec les jeux de snowboard étant souvent, je pense à 1080, mais je sais que Cool Borders a un système qui fonctionne à peu près pareil. T'as souvent des pistes qui sont dédiées à la course et des pistes qui sont dédiées aux figures. Contrairement à Tony Hawk où finalement tu ne fais entre guillemets que de la figure.
Ouais, c'est que t'as le côté course, mais dans le côté course justement, alors peut-être plus sur les jeux de la génération d'après, il y a une incitation. Justement, essayer de faire caser quelques figures pour juste obtenir quelques petites miettes de boost, quoi.
C'est ça. Bah, y a un jeu dont on parlera un petit peu après, parce que c'est vraiment, c'est, on va dire, presque la deuxième génération. Mais bref, c'est qui a vraiment très très bien exploité ce côté-là. T'as la BO. Alors, on citait quelques groupes des bandes originales de Tony Hawk. Moi, c'est de la musique qui me parle, il n'y a pas de problème, hein, j'étais là.
J'étais au collège.
C'est ça.
C'était la mode à l'époque.
Exactement, non, mais t'as Offspring, t'as Gutterman, t'as Bad Religion, t'as. Enfin voilà. Moi, tu t'écoutes la BO, moi, c'est la playlist, ça me va très bien. Hein. Il y a des trucs, je suis très content. Voilà. Donc, c'est effectivement beaucoup de punk, beaucoup de groupes un peu alternatifs, y compris des trucs parfois très peu connus. C'est assez étonnant, hein. Autant Bad Religion, c'est un truc un peu connu et tout ça, mais. T'as des trucs qui datent un peu avant d'ailleurs de on va dire, considéré plus comme du hard rock au sens AC/DC. Alors il n'y a pas de AC/DC, je crois, nulle part, mais t'as des groupes un petit peu plus anciens. Mais voilà, t'as toute cette espèce de scène rock punk et qui va se compléter, mais plus sur la génération d'après, j'ai l'impression, avec de l'électro et du hip hop. T'en auras pas systématiquement au tout début, quand tu écoutes la première BO de Tony Hawk Pro Skater 1 ou 2, c'est beaucoup rock, beaucoup punk. À partir du 3, tu commences à avoir de l'électro, tu commences à avoir du hip-hop, tu commences à avoir des choses comme ça. Du Limp Bizkit, des trucs un peu plus... de la fusion, des choses comme ça, ça commence à être intéressant. Et c'est vrai que ça fait... On l'a dit à travers les extraits musicaux qu'on a passés, mais ça fait vraiment partie de l'identité de ces jeux-là. C'est très compliqué de faire un jeu de sport extrême sans avoir la musique rock ou l'électro, ou des choses comme ça.
Ça fait partie de la culture skate de l'époque.
C'est ça.
T'as le très bon exemple, c'est Avril Lavigne, qui est une chanteuse de punk. Un de ses titres, c'est Skater Boy. Hein.
Yeah. C'est ça. Ah, ça te rappelle des bons souvenirs, Mecto.
Ah, j'aimais bien, moi.
Moi, je trouve que Nostalgie, ça s'est beaucoup amélioré ces 2-3 dernières années.
Eh mais putain, c'est qui passe du Michael Jackson, hein. J'ai pris un coup, moi, j'ai pris un coup.
Putain, la loose. Ah, écoutez, on est vieux, hein, c'est comme ça. Bref, et t'as tout le côté look, attitude, là encore très très années 90, avec bah, tout le monde a des baggies, des shorts trop longs, des t-shirts trop courts.
Ça vraiment, c'est la mode années 90, à chaque fois que quelqu'un en parle, je suis là genre, ça a vraiment existé.
Oui, ça a vraiment existé.
Mais j'étais trop jeune à l'époque.
Le baggy, gens, ouais, tu croisais quelqu'un, tu pouvais lui dire, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a chié dans votre froc.
En fait, j'ai l'impression que dans les années 90, tout le monde s'habillait comme dans Le Prince de Bel-Air.
Alors non, ça c'est les années 80, monsieur. Non, mais par contre, effectivement, t'avais plus trop les merde, comment ça s'appelle, les joggings, tu sais, avec des couleurs très très flashy. Ça, c'est plus le début des années 90, la fin des années 80. Mais clairement, le look de Tony Hawk, c'est-à-dire le t-shirt un peu trop grand avec l'espèce de chaîne qui dépasse, le short mal ajusté
et le
bonnet, les sneakers, pareil, oui. les baskets à fond plat, là. Ça, c'est vraiment typiquement ça. Et tu le retrouves même dans le look des menus. T'as des menus dans tous ces jeux-là qui sont très bordéliques, tu sais, très genre crayonnés à la main, tagués, et ainsi de suite.
C'est vrai.
Parce qu'on n'a pas parlé de culture du tag, mais effectivement, ça en fait partie, quoi.
Bah, il y a un jeu, alors qui n'est pas forcément de sport extrême, mais qui utilise cette esthétique, qui est Jet Set Radio.
Complètement.
Bah, c'est des mecs qui font du roller, il y a du grind, et puis après, il faut taguer les murs.
C'est exactement ça. Mais ça, c'est déjà la génération d'après, ça tombe bien, c'est une transition parfaite.
Incroyable.
Incrédible. Parce qu'effectivement, ces jeux-là naissent sur PlayStation, sur N64, même sur Saturn, hein, on l'a dit, Steep Slope Sliders, hein, pour ceux qui veulent la référence du jeu de cave de snowboard. Donc ces jeux naissent finalement vraiment, enfin commence vraiment à se populariser à cette époque-là, mais du coup à l'époque suivante ça continue, les poids lourds sont toujours là, t'as Tony Hawk's Pro Skater 3, Tony Hawk Pro Skater 4, t'as Cool Borders 2001. On parlera des Underground un petit peu après, mais je me le garde pour après exprès. T'as Cool Borders 2001, t'as 1080 degrés Avalanche, Waverest Blue Storm, qui est quand même un jeu de lancement de la GameCube,
qui a très bien vieilli, hein. Ouf. Bon, je vous dis sur Dolphin, oui. Vous verrez à quel point c'est encore solide, hein.
Et là, effectivement, par rapport au premier où t'avais quelques figures, mais c'était quand même plus des moves et des tricks un peu cachés, puis ça ne sert pas vraiment dans le jeu, c'est plus quand t'es dans le parc aux dauphins, qui est l'espèce de mode monde ouvert, finalement, c'est on te file un grand terrain de jeu, puis tu te démerdes. Là, dans Waverest Blue Storm, les figures peuvent servir à quelque chose.
Bah, en fait, ça te fait gagner du boost, enfin, t'as une jauge de boost à remplir, et si tu réussis des figures, bah tu gagnes du turbo. Par contre, si tu les fais mal, tu te casses la gueule et tu perds du temps.
Et t'as même quelques figures, par exemple, je pense au sous-marin, là, où tu sais, tu sautes et puis tu plonges, où tu peux prendre certains raccourcis avec ça, en passant sous certains éléments.
Exact. Et le jeu, en plus, a un tuto qui t'explique comment faire toutes les figures du jeu.
Ce qui est quand même pas mal, aussi. Hein. Peut-être mieux foutu que celui de Tony Hawk Pro Skater, pour être honnête. Mais je me demande si t'as joué au 3 ou t'avais joué aux deux autres avant.
J'ai fait le 3 directement.
Je me demande si c'était pas mieux expliqué dans Tony Hawk Pro Skater 1 et que genre là ils partent quand même du principe que tu connais un peu le truc.
Bon, en fait, je trouve que la difficulté dans le 3 c'était qu'ils te balançaient tous les termes techniques du skateboard et ils m'ont vite perdu, quoi.
Ouais, c'est vrai que. Putain, les noms des figures aussi qui ressemblaient pas à grand chose. T'as fait un 360 nose grab. Ice Climber, très bien, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai juste pris ma planche sur la droite. C'est compliqué. Bref, mais t'as aussi quelques petites nouveautés, c'est le moment où on commence à voir notamment quelques jeux de BMX. Alors on en avait quelques-uns à la toute fin de la PlayStation, et t'en as quelques-uns qui sont arrivés au tout début de la Dreamcast, mais là t'as des jeux comme Dev Mira Freestyle BMX, qui était aussi à la sortie de la GameCube.
C'est clairement de la Tony Hawk Exploitation où on a mis un nom, on va en faire un autre avec un autre sport extrême et un autre gars, et c'est toujours Activision qui publie.
C'est ça, c'est exactement ça, et je pense que c'est le même moteur de jeu.
C'est probable.
Parce que c'est à peu près le même système de jeu derrière, en plus, le même truc à base de figures où tu maintiens Y ou X ou B avec une direction pour faire une certaine figure. Moi j'ai trouvé que Dev Mira c'était très très compliqué. Je passais beaucoup de temps à me casser la gueule, beaucoup plus que sur Tony Hawk. Je trouvais ça beaucoup moins fun. T'as eu quelques titres très très racoleurs, je pense à Acclaim et son fameux BMX XXX.
DR.
Alors l'objectif, c'est de rider comme un fou pour débloquer des vidéos de striptease.
C'est vraiment ça?
Ouais, c'est vraiment ça.
Ah mais c'est l'ancien réalisateur de Metroid Prime, du coup.
Oui, oui.
Non, c'est vrai en plus?
Non, mais c'est vrai.
Putain, c'était une vanne à la base.
Non, c'est pas une vanne, hein. Il a vraiment
mais
réalisé BMXXXX.
Oh là là. Vraiment, c'est le pire jusqu'au bout, ce type. Hein.
Ouais, mais c'est... Enfin, le jeu est juste... Le pire, c'est que c'est même pas un jeu... Enfin, c'est... Finalement, ça devient presque un jeu générique, en fait. C'est-à-dire que Tony Hawk, ça a apporté vraiment un truc fou. Encore une fois, comme on l'a dit, le tout premier... Entre le Tony Hawk Pro Skater et Tony Hawk Pro Skater 2, il y a extrêmement peu de nouveautés. Il y a deux, trois... Il y a vraiment des ajustements, mais tu sens que les mecs, ils ont tapé dans le mille du premier coup. Et ouais, c'est un truc assez ouf.
C'est du raffinement, quoi.
C'est vraiment du raffinement, les terrains sont un peu plus grands, il y a des trucs un peu plus fous. Bah, tu vas avoir le premier Tony Hawk Pro Skater, t'as beaucoup de vrais skateparks, et puis t'as des terrains entre guillemets improvisés, t'as notamment l'entrepôt qui est un truc qui est resté célèbre parce que justement c'est un des niveaux très très bien foutus. T'as un truc dans un hall d'aéroport, mais t'as rien de très très fou. Dans le 3, t'as des trucs un peu pétés où effectivement.
Oh, le premier niveau qu'il propose, c'est genre une forge.
Ouais, c'est ça, donc c'est un peu n'importe quoi. Mais voilà, mais finalement, d'un point de vue mécanique, il n'y a pas grand-chose qui a changé. T'as un peu plus de boutons, donc on a pu faire d'autres figures, t'as quelques figures qui sont rajoutées à droite à gauche, t'as un peu de personnalisation, mais grosso merdo, ça reste quand même sur le fond à peu près le même jeu. Il est mis à jour, il est raffiné, il est un peu plus beau, il est un peu plus fluide. Mais voilà. Là, BMXXXX, le problème, c'est que bah, finalement, il ressemble à n'importe quel jeu de ce type-là. Le seul argument de vente, c'était « bon, bah, il y a des vidéos de striptease, quoi. » Qui sont d'ailleurs pas de très bonne qualité, en plus, donc ça vaut pas le coup d'essayer de platiner le jeu pour ça, hein, je vous le dis tout de suite. Hein,
Ah, bah, je cancel le download, alors.
Je sais pas si on peut juste extraire les vidéos de la ROM, comme ça, t'es pas obligé de te taper le jeu.
Non, bah, à ce stade, autant aller directement sur les sites appropriés, hein.
Je sais même pas si... Enfin, ouais, j'en sais, j'ai pas envie de savoir. Tu commences aussi à avoir des... Alors, pareil, hein, Même principe que ce que tu disais, on prend un nom célèbre, on met un truc à côté, donc Dev Mira Freestyle BMX. C'est assez con. Tu as Kelly Slater Pro Surfer.
Je laisse deviner ce qu'il fait. Hein.
C'est... Puis alors en plus, là c'est vraiment abusé parce que Kelly Slater Pro Surfer, Tony Hawk Pro Skater. Tu sens que les mecs ils se sont pas trop cassés la nénette quand même. Hein.
Allez, surfer sur le succès. Hein.
Alors, on me pose la question, ai-je regardé les vidéos de striptease pour dire qu'elles ne sont pas top? Oui, j'ai platiné le jeu pour ça.
Journalisme total.
Premier degré, j'ai vraiment essayé de jouer au jeu pour développer les trucs.
Pro cuisinier.
C'est à peu près ça, hein. Et t'as même des jeux de trottinette. Alors, je pense à Wild Tour Scooters, où en fait, c'est du BMX, mais en trottinette.
Il pourrait faire une suite avec des trottinettes en libre-service dans Paris, quoi.
Ah putain, ce serait énorme. Faut que tu grindes la scène. Ah oui, mais en plus, avec les stations de métro, on pourrait faire des terrains de ouf. Hein.
Tu gagnes des boosts en grillant les feux rouges.
Ah putain, la bonne idée. Et à côté de ça, il y a effectivement une myriade de petits nouveaux qui apportent quand même des petites choses intéressantes. Alors, on a parlé de Jet Set Radio. C'est effectivement, ça sert plus de cadre à un autre type de jeu.
Après, t'es quand même encouragé justement à quand même te déplacer comme ça, mais tu vois que c'est l'ambiance un peu contre-culture MTV qui met en avant là-dedans, quoi.
C'est ça, ben, ne serait-ce que le fameux cel shading. C'est un des premiers gros jeux à être présenté en cel shading, qui lui donnait un style très crayonné, très comics, qui allait très très bien avec cet univers. Côté Microsoft, on a un jeu qui s'appelle Amped, je sais pas comment on prononce ça, qui est en fait un jeu de snowboard, qui est alors lui se veut beaucoup plus technico-réaliste. C'est-à-dire qu'on est vraiment... On s'éloigne... On est plus dans 1080 Avalanche, essayer d'avoir ce côté qui se voulait un petit peu réaliste. Sans l'être trop, hein, bien sûr, mais qui se voulait un petit peu réaliste. Apparemment, Amped va vraiment plus loin dans ce truc-là. Et mine de rien, ils en ont fait, je crois, 3 ou 4 chez Microsoft sur la Xbox. Alors peut-être entre Xbox et Xbox 360, mais... Bon, bref... Il y a du jeu de snow, quoi. Et à l'extrême opposé, t'as SSX.
Jeudi, hein.
Le jeu d'Electronic Arts.
Adoré ce truc.
Alors bah tiens, tu vas nous en parler. Donc l'idée de SSX,
globalement, prenez du snow, prenez un jeu d'arcade, mais genre bien pété, mélangez les deux et voilà. Et n'hésitez pas à faire des descentes, voilà, n'hésitez pas à faire des descentes qui se passent dans un flipper, rien à foutre quoi.
C'est ça, donc là c'est on pousse le curseur à mort sur l'arcade, sans réfléchir.
Il y a un half pipe, mais pourquoi pas prendre un pipe entier et te permettre de faire le tour complet du tunnel si tu veux quoi.
Mais c'est F-Zero en fait ton jeu.
C'est ça.
C'est ça.
Moi j'avais testé le 3 sur GameCube, et en plus ils avaient une notion de genre tu peux descendre la montagne avec des genre un open world mais dans une montagne.
C'est ça, mais alors ça fait partie des petites nouveautés effectivement. Alors SSX et SSX, donc SSX est resté sur PS2 mais SSX Tricky est sorti sur toutes les consoles. Et s'il s'appelle Tricky c'est pas pour rien, c'est parce que l'idée derrière SSX c'est entre guillemets risque-récompense, hein, mais c'est faire des tricks pour augmenter ta jauge de boost, pour te permettre d'aller plus vite. Donc on est vraiment dans un complet esprit arcade, dans lequel bah, plus tu fais des figures délirantes, plus tu prends de risques, plus t'es récompensé en ayant du boost qui te permet d'aller encore plus vite, qui te permet d'aller battre tes adversaires, etc. etc.
Et de faire des trucs stylés.
Et de faire des trucs stylés en plus. Alors t'as pas encore de score de style, je crois, sur SSX Tricky, mais je suis pas certain.
Non, comme il me semble qu'ils affichent juste le nom de ta figure, mais ça peut aller à 7200 ou des trucs comme ça, tu vois. Après, le nombre de tours que tu fais, quoi.
Je crois qu'il y avait un mode un peu half pipe, justement.
Non, full pipe, on a dit.
Oui, c'est vrai. Pardon. Hein.
Mais Kator, comment tu fais pour sauter dans un full pipe?
Tu passes par le mur, rien à foutre.
Does not compute.
Je commence à avoir des PTSD du circuit half pipe de F-Zero GX, là.
Ah, c'est vrai que...
oui, toujours.
Mais là, c'est vrai qu'on a vu, vraiment les trucs diamétralement opposés, c'est-à-dire Impt qui essaye vraiment plus de parler nature-montagne, et SSX qui te dit « Il faut faire un circuit dans une forge alors que c'est de la neige, mais rien à foutre !»
Ça passe.
C'est marrant parce que 1080, c'est quelque part entre les deux, quoi.
C'est ça, t'as un petit équilibre, t'as des tricks un peu délirants, t'en as, parce que t'as notamment une épreuve de... t'as une rampe dans laquelle quand tu prends la rampe correctement t'as un ralenti qui fait que tu peux faire un nombre de figures complètement délirant en l'espace de 10 secondes. Ce qui est quand même assez marrant. Et de l'autre côté t'as effectivement SSX où oui, enfin faire un 7200 degrés en ayant pris ta planche devant, derrière, à gauche, à droite, fais 3 tours sur toi-même.
Glisser sur une ligne à haute tension derrière, ouais pas de problème.
C'est la base. Ça passe. Ce qui veut pas dire que dans 1080 il n'y a pas des trucs délirants. Moi j'ai retrouvé ma sauvegarde de 1080 à Avalanche. J'avais débloqué tous les persos et toutes les planches. Et j'avais notamment le pirate et la planche pingouin. Il y avait la planche fusée. Enfin, il y avait quand même plein de trucs très très marrants.
Ah, ils sont amusés quoi.
Écoute, quand tu fais un jeu comme ça, je pense que tu peux t'amuser. Finalement, il y a quand même une espèce de déclin vers la fin des années 2000, alors tu commences à avoir des expériences qui s'éloignent un petit peu... Enfin, tu sens que côté Tony Hawk, on a du mal à se renouveler après le 4. Parce que, comme on l'a dit, c'est quand même des jeux qui sont très 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 orientés arcade. Donc, sans mentir, je pense qu'un... Tu me corriges si je me trompe, Mecton, et Antix d'ailleurs. 1080 Avalanche, c'est un jeu qui peut se finir en une après-midi.
Alors moi, j'avoue que j'ai lancé le jeu, je me suis dit que si je voulais faire toutes les courses, ça allait être rapide.
C'est ça. T'as pas tant de courses que ça. Je sais que dans un 1080 snowboarding, il y avait, je crois, de mémoire, 8 ou 9 courses. Et il me semble que dans un 1080 Avalanche, il n'y en a pas tellement plus. Dans un Tony Hawk Pro Skater 3, de mémoire, il y avait une dizaine de skateparks, peut-être une quinzaine de skateparks.
Après, c'est la variété des missions qui rajoutait un peu de contenu.
Mais ça reste un jeu très 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 arcade, hein. Le mode carrière, ça consiste juste à enchaîner toutes les skateparks en essayant de faire le plus gros score possible au-dessus d'un certain point, mais c'est à peu près tout.
Mmh. Ouais. Sauf que là, en fait, on arrive dans une période où il y a beaucoup de critiques sur le contenu des jeux. Donc, payer 60 balles un jeu que tu finis en 5 heures, c'est plus quelque chose qu'à accepter. Et en fait, les joueurs sont plus en demande d'expériences. De narrative longue durée que des titres un peu feeling arcade et mine de rien ça va se ressentir un petit peu justement sur ce que t'as listé après.
Oui, t'as des modes histoire de plus en plus compliqués. Alors on rappelle Tony Hawk, c'est la série principale, c'est Tony Hawk Pro Skater, donc 1, 2, 3, 4, le 5 étant un problème, mais qui arrive beaucoup beaucoup plus tard. À partir du 4, il commence à y avoir... Alors déjà, il y a quasiment un numéro annuel, hein. Il y a eu 8 Tony Hawk en l'espace de 9 ans.
Putain, tant que ça ?
Ouais, non, c'est assez violent, hein, parce que t'as Tony Hawk Underground, Underground 2, American Wasteland, comment ça s'appelle ? Downhill. Enfin, ça devient très compliqué à suivre. Hein. En plus de la série principale, hein. Donc t'as les 4 jeux de la série principale, t'as 5 jeux dérivés en l'espace de... Oui, je te dis, jusqu'en 2007, donc en l'espace de 8 ou 9 ans.
Vache.
Donc je pense qu'il y a eu une surexploitation à un moment aussi, hein. Avec une difficulté à se renouveler, encore une fois, on l'a dit, hein, entre Tony Hawk, Pro Skater, je dirais 2 et 3, déjà, il n'y a pas une différence énorme.
Oui,
et
puis en plus, quand en parallèle, on te sort des Dave Mira, Sean White et compagnie qui ressemblent un petit peu, c'est. T'as l'impression d'avoir que ça, quoi.
C'est ça. Alors, donc, il y a des modes histoire. Alors, on a parlé de Jet Set Radio, hein, où c'est plus finalement. Une histoire qui se déroule dans cet univers-là. Mais Tony Hawk Underground, en fait, l'idée, c'est que t'as un vrai mode histoire dans lequel t'essayes de devenir genre le meilleur skater, pas le meilleur dresseur, excusez-moi. C'est pas tout à fait pareil. Alors, c'est toujours le même truc, c'est où genre Tony Hawk Underground 2, je crois que l'histoire, c'est genre t'essayes de récupérer du pognon pour construire un skatepark parce que c'est cool pour ton quartier. Tu vois, donc en plus, c'est quand même pas des trucs très très... Un peu des trucs à la con. Ça reste toujours le même fond, hein. Ça reste toujours une espèce d'arène dans laquelle tu dois accomplir des espèces de missions, sauf que là, les missions, ça consiste à récupérer du pognon, quoi, en gros. Je crois qu'American Wasteland, c'est genre... c'est le monde post-apocalyptique de Tony Hawk, où il faut reconstruire un skatepark, mais en récupérant des bouts de métal et des bouts de béton que tu as récupérés dans le désert.
La bouffe, ça part ça après, hein. Le skatepark d'abord.
Oui, c'est très très optionnel, tout ça. Et je pensais aussi à Dark Summit, qui est un jeu qui se présente sous la forme d'un jeu de snowboard, mais qui en fait est une espèce de jeu avec des missions qui se passent dans des trucs de snowboard. C'est très très bizarre. T'as un méchant et tout, t'as une histoire, c'est très... Voilà. C'est très 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 curieux. Et t'as aussi pas mal de tentatives d'open world. Donc on a parlé d'SSX 3, où t'as effectivement, entre guillemets, une vraie montagne que tu peux rider. Donc tu peux vraiment la descendre de A à Z. Je crois que t'as même plusieurs sommets, si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus exactement, mais c'est...
Il me semble,
ouais. Il y en avait 3, ouais, dans le menu.
Voilà, et je pense à un jeu d'Ubisoft, alors qui est sorti un petit peu plus tard, hein, mais qui illustre très bien ça.
C'est un jeu PS4, ça.
Oui, tout à fait. C'est un jeu du début de la vie de la PS4, si je dis pas de bêtises.
Très apprécié, hein, paraît-il.
Oui, mais apparemment, c'était très très bien. Alors, attendez. Je vais faire une pause, ça sonne chez moi.
Ah. Steep avec EE, ok.
Je crois qu'il y avait justement, ils avaient même une espèce de paravoile avec la wingsuit qui te permettait justement d'aller d'un sommet de la montagne à l'autre. Et je crois que c'était pas que du snowboard, hein. T'avais peut-être aussi d'autres trucs de glisse sur neige. Hein.
C'est pas impossible, ouais, que t'aies de la luge.
Il y avait un côté un peu sport extrême à la montagne et qui va que juste au-delà que juste du snowboard, quoi.
Ouais, et du coup, oui, effectivement, il y a eu une espèce d'effet de fatigue qui, je pense, explique le déclin. T'as eu aussi pas mal de jeux qui ont essayé du motion gaming. Alors, côté Tony Hawk, encore une fois, t'as Tony Hawk Shred. Alors, c'est encore un autre Tony Hawk, hein. Donc c'est pour te donner une idée de la surexploitation du phénomène, c'est assez violent, dans lequel on te vendait une planche avec des capteurs infrarouges et t'étais censé refaire des mouvements de skate dans ton salon.
Combien de morts ?
Je sais pas. Moi, il y en a un que j'ai bien apprécié, c'était Sean White Snowboarding, qui se jouait, ouais, à la balance board.
C'était très cool.
C'était très très cool parce que ça marchait assez intelligemment. Mm-mm. Non, c'est pas Tony Hawk Shrek, ça c'est une autre édition de Tony Hawk.
J'avais Tony Hawk Schlag.
Édition française. T'as Skate It, pour ceux qui s'en rappellent, le même principe, t'avais une espèce de planche à la con. Ça a fini par devenir un petit peu comme, finalement, comme les Guitar Hero. T'avais l'accessoire à la con qui allait avec le jeu.
Ah, c'était un peu la mode à l'époque, ça aussi.
C'était la mode à l'époque, je suis parti là-dessus. Bref, donc c'est un petit peu tombé en désuétude, je dirais, vers... je pense que Steep, qui était le truc d'Ubisoft, là, de snowboard, je pense que c'est le truc qui est vraiment... C'était vraiment la queue du truc. Et je sais pas si ça a très bien marché, Steep, j'en ai aucune idée.
Je sais pas, je veux dire que c'était... Il y a eu des bons retours critiques, mais pas forcément de bonnes ventes derrière. Enfin, ils en ont pas fait d'autres,
donc c'est peut-être ça aussi.
Moi, j'ai une théorie quand même là-dessus, c'est que à partir de la seconde moitié des années 2000, on rentre aussi dans une période où culturellement, y a eu le 11 septembre qui quand même a pas mal influencé la culture produite, et je pense que c'est aussi une période où ce type de jeu, c'était plus en phase avec ce qu'on a l'habitude de voir, avec des trucs un peu plus dark, gritty, tu vois, à la télé.
Bah, c'est évident que ça fait aussi partie du phénomène. T'as eu un phénomène de fatigue, au sens beaucoup de jeux, un marché qui sature finalement. Un jour, il faudra qu'on reparle de la mode des Guitar Hero et des Rock Band et autres, parce que c'est pareil, on a eu 3-4 ans où ça a été vraiment en surchauffe, quoi.
Ah, t'avais l'épisode annuel de Guitar Hero avec sa variante pour un groupe de rock connu.
Ouais.
Voilà. Mais t'as eu le même genre, je pense, de phénomène de fatigue, et effectivement, il y a le changement de mode.
Oui, c'est un genre qui a du mal à se renouveler, comme on l'a dit.
Ben, quand t'as fait un Tony Hawk Pro Skater qui est quasiment parfait du premier coup, c'est compliqué. Quand t'as des jeux de snowboard où, bon, finalement, à part SSX qui a tenté un truc un peu différent, et encore, hein, finalement, entre SSX et SSX Tricky, il y a petite nuance, mais à partir de SSX 3, t'as eu quand même 2 ou 3 épisodes derrière. Donc, ça devient quand même compliqué d'aller renouveler un genre de ce type-là. Tu peux le faire une fois, tu peux le faire deux fois, ou alors il faut vraiment éloigner les sorties pour laisser le temps aux développeurs de faire un peu leur boulot, quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même eu une petite résurgence ces derniers temps. Alors c'est timide, hein, mais ça revient un petit peu à la mode. On avait cité des jeux comme Trials, qui est le jeu de motocross.
Bah, qui du coup est un jeu avec un gameplay 2D.
Complètement. Mais du coup, qui a innové juste en étant un gameplay 2D finalement, à chercher à revenir un peu aux sources, quoi, finalement.
Là, en fait, pour moi, c'est la version boostée aux hormones d'Excitebike.
On est là, ouais, c'est à peu près ça. Excitebike n'est pas vraiment un jeu de sport extrême, hein, c'est ça qui est rigolo, hein, c'est que. Alors même si t'as eu Excitebike 64, qui était vraiment un jeu de BMX sur 64, qui ressemble un peu aux prémices de ce qu'on aura un petit peu après, ça l'est pas tout à fait. Voilà, t'as Skater XL, qui pareil a été apparemment un bon succès, qui est un jeu de skate. Pas trop arcade, justement, où les figures se font avec le stick droit, en fait, où c'est vraiment, t'as un côté un peu plus technique dans la façon de réaliser les choses, c'est, la mécanique est un petit peu différente, et du coup, ça renouvelle un petit peu la, on va dire, la formule classique Tony Hawk, où tu maintiens une direction avec un bouton. Non, là, t'es vraiment obligé d'aller faire des mouvements qui vont correspondre au mouvement réel que fait le skater avec ses pieds, ou, la figure, tu vas avoir une logique entre le mouvement que tu fais au stick et la figure. Et donc, du coup, ça va demander un petit peu de précision, ça va demander de faire les choses un peu autrement. Ce que je trouve intéressant. Et enfin, t'as eu quand même un assez gros succès pour Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, qui est juste la réédition des deux premiers Tony Hawk. Alors c'est un remake des versions PlayStation et N64.
Oui, ça a été refait de manière très propre, avec des graphismes modernes. Hein.
Tout à fait, mais le truc c'est que ça a plutôt très très bien marché. Il y a plein de gens qui l'ont racheté en se disant c'est cool, et en fait le jeu il est assez cool.
Bah, c'est un gameplay qu'on voit plus trop maintenant, et qui en fait je pense est toujours intéressant.
Voilà. Et après, à la question, effectivement, est-ce que les gens sont prêts à payer 50 balles pour ça? Bah, en vrai, c'est une expérience qui est inintéressante, je trouve.
Il y a l'argument qu'il y a les deux jeux, déjà.
Effectivement, enfin, la différence entre les deux jeux, c'est une feuille de papier à cigarette.
C'est pour ça qu'ils ont mis les deux jeux dans la même compilation.
Je pense que s'ils l'avaient appelé Tony Hawk Pro Skater 6, ça aurait peut-être pas tellement marché. Même si, quoique. Mais voilà, apparemment, ça a bien marché. Je pense qu'effectivement, des expériences un peu plus... simple, avec de la mécanique un peu exigeante, vraiment très typée arcade, peut-être que c'est le genre de truc qui pourrait avoir une espèce aussi de résurgence avec aujourd'hui le marché du dématérialisé, où tu peux proposer ce genre d'expérience à un prix plus raisonnable que 60€ en boîte, où c'est vrai que c'est quand même un petit peu compliqué pour effectivement un jeu qui est peut-être très très fun, mais t'as vraiment 5 heures d'espérance de vie au mieux. Alors après, t'as effectivement la rejouabilité qui est énorme derrière, mais c'est quand même compliqué à vendre, je trouve.
Ah, c'est comme ça que c'est vendu Trials. Hein. C'est un jeu qui doit être sur le store à 15 ou 20 balles. Le gameplay est simple, par contre c'est dur. Et si tu veux faire les défis les plus durs, bah, tu vas devoir bosser un peu, mais ça plaît à pas mal de gens, en fait.
Ah, je trouve ça pas inintéressant, au titre personnel.
Et moi, je pense aussi à un autre truc, c'est que mine de rien, bah, même si on n'a plus de jeux de sport extrême, il y a des idées dans des mécaniques qu'on a évoquées qui ont été reprises dans d'autres choses. Moi, je pensais à un jeu qui s'appelle Rollerdrome, et en fait, qui pourrait se résumer à « Et si on jouait à Tony Hawk, mais en fait, on avait des flingues ?»
Ah oui.
Et en fait, l'idée, c'est... par contre, la partie trick, c'est très facile à faire. Tu peux pas te casser la gueule. Par contre, l'idée, c'est que t'es dans des arènes où tu vas tirer sur des mecs, et le seul moyen de recharger, c'est de faire des figures.
Mais il y a peut-être un... Ouais, effectivement, ça, c'est pas inintéressant comme approche, hein, de se dire que... On a déjà dit hein, que Bayonetta, ça ressemblait beaucoup à Tony Hawk Pro Skater. C'est vrai que le parallèle est bizarre, mais en fait, c'est
normal.
Ça.
Normal
hein.
Et moi, il y a un autre truc aussi, c'est quand tu regardes les derniers Mario Kart, t'as c'est... Alors, c'est beaucoup plus simple, mais... t'as cette notion, bah, déjà, de Risk Reward avec le drift, mais... quand tu sautes, bah, tu peux faire une figure en appuyant sur un bouton. Dans le prochain, tu pourras grinder sur les murs et sur des rampes. Donc il y a quand même une partie de cette esthétique qui est réutilisée dans d'autres types de jeux qui peuvent se rapprocher sans forcément aller à ce niveau d'exigence, mais genre, en fait c'est quand même des trucs qui sont cool à faire, donc on va les mettre ailleurs.
Ouais, c'est vraiment étonnant.
Sonic en 3D, il grind sur des rails aussi. Hein.
Non, on a dit qu'on parlait pas du
Sonic. Et ça fait du score. Et ça fait du score.
Quel enfer. Vous êtes des enfoirés. Vous m'avez rappelé ce jeu de merde. Que je vous conseille, hein, Sonic Zero Gravity, vraiment le jeu de l'année, hein, sans problème.
Alors moi, je pensais plus au Sonic Platform.
Ah putain, c'est encore pire.
Non, je pense pas là quand même.
Ah, ça dépend lequel. C'est vrai que les Sonic 3D, t'as du grind, t'as du machin, ça.
Quand tu regardes Sonic Adventure 2, t'avais des espèces de scores en fonction de quand tu réussissais les actions, et c'était sur des Sonic, c'est des actions vraiment de figure, de sport extrême, de grind, c'était sur ça qu'ils te notaient, quoi.
Mecto qui dit ESPN, Mario et Sonic, les bâtards. En vrai, ce serait rigolo.
Après Track and Field, Mario et Sonic.
Bref, eh ben écoutez, je pense qu'on va boucler là, parce que ça me paraît déjà pas mal.
Yes, sir.
On a fait un bon petit tour. On va se dire à dans 2 semaines, je ne sais pas du tout de quoi on va parler, d'autant plus qu'on est encore 2 semaines avant la sortie de la Switch 2, donc ça va être très compliqué. Mais vous inquiétez pas, on va trouver.
On trouve toujours des idées.
C'est ça. Kirby qui dit ça fait plus de 30 secondes que vous parlez de Sonic, il est temps de boucler l'émission, c'est à peu près ça. Hein. Je suis assez d'accord avec le principe. Ça veut dire qu'on est allé beaucoup trop loin, je pense que... Voilà. Est-ce que vous êtes malade? Oui.
Ah, moi, je suis contractuellement obligé de parler Sonic à chaque émission juste pour faire chez Marfond.
Bref, en tout cas, on vous fait des très très gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine en podcast et à dans 2 semaines en direct. Ciao tout le monde.
Ciao, ciao.
Bisous.